connaître l'impact dans votre vie. Dans votre vie. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle qu'on est toujours avec le docteur Nima Machouf, épidémiologiste. Et quelque chose que je me dis, c'est que je constate en fait, c'est que quand il y a une éclosion d'un CHSLD, une conséquence à laquelle on n'a pas pensé, c'est que si ça se généralise le moindrement, le personnel déserte. Excusez-moi, ici, ils ont le droit. Parce qu'il y a eu un grand débat sur les risques que ces gens-là prennent. On les appelle nos anges, puis le gouvernement avait promis de les payer comme il faut. D'après moi, j'en ai pas vu une hurler de joie parce qu'elle est devenue milliardaire. Là. Donc, c'est encore... Et à ce moment-là, s'il y a une infection, ben ça se peut qu'il y ait des défections. Je pense que l'un peut entraîner l'autre parce qu'ils sont comme tout le monde. Ils ramènent ça dans leur famille. Ils ont peur de tuer les propres membres de leur famille. Donc, à un moment donné, elles désertent. C'est normal. Est-ce que vous... Je dis une connerie, Dr. Machouf?
Au début, on a vu que les proches du personnel soignant ont été beaucoup infectés parce que c'était pas tout le personnel qui travaillait dans des centres de soins qui avait le matériel de protection. Mais par la suite, quand on a su que finalement, il fallait que tout le monde se protège, peu importe, même s'ils donnaient pas des soins respiratoires aux patients, à partir de ce moment-là, et surtout, ils ont vu que les personnes, la transmission se faisait beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. À partir de ce moment-là, tout le monde avait de la protection. Donc, aujourd'hui, normalement, tout le personnel qui travaille dans les centres de soins devrait avoir la protection nécessaire. Et quand on a les protections nécessaires, normalement, on ne devrait pas s'infecter. Donc, aujourd'hui, la crainte n'est plus valide, mais au début, là, il y a eu tellement de ratés à ce niveau-là que je comprends qu'il y a des gens qui pensent encore que ça peut être dangereux.
Mais vous savez, moi, je me rappelle lors de l'épidémie du SRAS. D'ailleurs, je vois beaucoup d'arguments d'un côté et de l'autre. Je m'en fous. Il y a un spécialiste qui a dit que je me sacre toujours de ces espèces de petites nouvelles, fausses nouvelles-là. Ça me tape ses nerfs. Ça m'intéresse l'opinion d'un médecin. Je parle avec un en ce moment, mais je base pas tout mon raisonnement sur un médecin. J'essaie de baser mon raisonnement sur un consensus scientifique. C'est ça qu'on cherche. Alors, quand on parle, par exemple, que tous les médecins nous manquent, est-ce qu'on parle vraiment de millions de médecins qui sont capables de garder un secret? Je serais bien étonné, moi. Alors, c'est ce que je cherche tout le temps. Et à ce moment-là, et je me suis perdu, j'allais vous dire quelque chose. C'est ça, TDAH. Ça arrive au moment où on s'y attendait pas. La dernière journée, on va aller à un appel, je vais retrouver ce que je voulais vous dire. Ça sera pas long. Répondez à ma place, Dr. Machouf, quand vous pouvez.
Non, moi aussi, j'essayais de voir où est-ce que vous voulez en venir.
Non, je m'en venais à quelque chose. Je vous le promets, je vais le retrouver. On va parler à Claude. Salut, Claude.
Bonjour, M. Berger. Ça va bien? On s'en va à 150 000 à l'heure dans un deuxième confinement parce que les gens sont imbéciles. Ils comprennent pas. C'est comme, on a un cancer, c'est pas écrit dans le front qu'on a un cancer. Le COVID, il est là.
C'est l'invisible, hein?
Ouais, il y a peut-être un petit break. Puis bien souvent, quand on voit pas quelque chose, on s'imagine que tout va bien. Je vais donner une anecdote. Moi, j'ai été voir mon lettreur. Je m'ai fait faire un chandail. C'est marqué en arrière, puis c'est peut-être un peu vulgaire, mais c'est pas si vulgaire que ça. C'est marqué, si je peux te crisser mon poing sur la gueule, c'est que t'as pas respecté mon 2 mètres, dégage, puis il y a un âne avec ça. Si tu me crées pas, là, je vais t'envoyer la photo par message. Là. OK. Et crée-les pas. J'ai des gens, moi, je porte le masque. Je suis diabète. J'ai déjà fait un infarctus. Fait que j'étais un peu à risque. J'ai des gens qui me tapent sur l'épaule, puis qui me disent, hey, ton chandail, il est écœurant.
Ah oui, ils viennent vous féliciter.
Moi, je les regarde, puis je lui dis, tu sais-tu l'es, le français?
Oui.
Les gens, malheureusement, je pense que le docteur va être d'accord avec moi.
Mais c'est parce que, évidemment, mais il n'y a pas un moment donné où on ne s'échappe pas, à un moment donné. Je parlais ici, là, tout le personnel qu'il y a ici à la radio, avec qui j'ai travaillé l'été passé, puis là, je les retrouve cette année. On a passé proche de se donner des belles poignées de main, nous autres, puis on se retenait, mais ça a passé proche en maudit. On peut comprendre. Il y a un de mes recherchistes qui dit non, pas avec moi. Non, toi, t'es tannant, qu'est-ce que je te dis? donc, t'es protégé. Et donc, il y a un réflexe à un moment donné. Alors, je peux comprendre que sur une bonne joke, à condition que ce soit pris comme une joke et non pas comme une menace, mais qu'il y ait des gens qui soient tentés. Mais effectivement, c'est des petits gestes qu'on oublie. Je crois que c'est les petites distractions. Ceci dit, je pense que la docteure Machouf pourrait dédramatiser ça, Claude. Si on vous a tapé sur l'épaule, ben, c'est pas nécessairement une contamination non plus, docteur Machouf.
Oui, mais je comprends que Claude, il dit, le message que moi j'ai sur mon Chantal, c'est gardez vos distances. Oui. Donc, si vous vous rapprochez, vous venez exactement de faire l'inverse. Donc, je comprends. Ça ne veut pas dire que parce que pendant quelques secondes, on a été proche, qu'on est nécessairement contaminé ou on contamine quelqu'un d'autre. Mais je veux revenir sur l'histoire de baisser la garde. Si vous voulez traverser un boulevard où il y a énormément d'autos qui passent, vous allez beaucoup, beaucoup surveiller. OK, vous allez me dire, il faut traverser uniquement au feu rouge. Je comprends, mais admettons qu'on ne traverse pas au feu rouge.
Oui, dans la vraie vie, on parle, parce que les gens qui traversent juste sur les feux rouges, c'est une petite minorité.
Alors, vous allez vraiment surveiller votre traversée du boulevard. Mais oui. Là, si vous voulez traverser une rue qui est beaucoup moins achalandée, vous allez moins être sur vos gardes. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut fermer les yeux et traverser.
Ben non, il y a une donc, auto même quand c'est pas fréquenté.
C'est ça. On peut baisser un peu la garde, mais il faut vraiment surveiller l'essentiel. On garde les distances, on porte le masque, on se lave les mains de manière raisonnable et comme ça, tout le monde peut être un peu protégé.
Oui, ben c'était ça mon point que j'ai oublié en cours de route. C'est que tout ça, ça nous fait des informations parfois discordantes et je crois que pour tout le monde, si on avait une ligne très tracée d'avance pour tout le monde, c'est plus facile de se retrouver, mais les gens reçoivent des informations contradictoires et la ligne devient très grise. C'est pas ni noir ni blanc, la ligne devient très grise à force de beaucoup d'informations. Le problème, quand on a une opinion puis à laquelle on tient, c'est qu'on fait l'inverse de ce qu'un scientifique fait. Un scientifique, lui, va chercher quelque chose, puis suite à sa découverte, va se faire une opinion. Mais quand notre opinion est déjà faite, on va s'intéresser juste à des scientifiques ou pseudo-scientifiques qui vont dire ce qu'on pense. On fait l'inverse de ce qui est scientifique. Et c'est là qu'il se trace une ligne grise. Par exemple, des manifestations sans respecter de distance et tout ça. C'est cette espèce de ligne grise, je pense, qui est dure à gérer pour une société. On n'a pas tous la même, mais il faut quand même avoir des consignes précises. Mais déjà là, moi, les miennes ont bougé juste en vous parlant, Dr Machouf, aujourd'hui. Chez moi, je vais moins m'énerver là, avec l'alcool sur toutes les poignées puis les bobages. Je vais prendre ça un petit peu plus smooth. D'un autre côté, moi, je suis au courant pour les salles. Moi, c'est une salle de 300 qui m'approche qui dit ben oui, on peut avoir 250. Je vais dire non, tu peux pas. Et je l'ai déjà dit, tu peux pas. Renseigne-toi, va sur le site de la santé publique, tu peux pas, il n'y aura pas de show. Là.
C'est la logique de cette prévention qu'il faut toujours garder en tête. Voilà. Même si on me dit, même s'ils nous disent que dans la maison, 10 personnes, 3 familles, c'est permis. Si moi, ma maison, ou l'endroit où je veux recevoir les gens, il est trop petit, ce 10 personnes, 3 familles ne me concerne pas parce que je ne suis pas capable de respecter la logique qui ferait que j'éviterais une transmission.
Il y a, y a des gens qui nous ont appelés. On va prendre un autre appel, mais il y a des gens qui nous ont appelés, qui étaient, eux, partis des complotistes. Ils ont droit à leur opinion, mais ils mettaient le masque quand même pour respecter les autres, pour faire attention, pour au cas où que je me serais trompé, et qui faisaient quand même attention. À ce moment-là, ça, parce que je veux dire, mettre un morceau de tissu sur sa face, c'est pas une façon d'être contrôlé. J'essaie toujours de leur répondre que il y a déjà des règles, t'es déjà contrôlé, t'as pas le droit de te promener le zouiz à l'air au centre-ville. Faut que tu t'habilles, c'est ça la loi. Alors, mettre un petit masque pendant une pandémie, c'est pas quelque chose de dramatique. Puis j'ai eu beaucoup d'appels ici, j'étais surpris, des gens qui disent, moi, je crois pas à ça, c'est mon opinion, j'ai le droit, mais au cas où, quand même, puis pour protéger les autres, on ne sait jamais, moi, je le mets le masque. Me battrai pas avec ça. Ça s'appelle raisonner, ça. À ce moment-là, j'ai pas de problème avec l'opinion de personne, parce que l'opinion de personne, une opinion divergente ne va pas contaminer personne. C'est très personnel, tout ça. C'est pour ça que je vous parle de ligne grise. On va voir avec notre prochain invité. On va parler à Sylvain tout de suite. Salut, Sylvain.
Oui, bonjour, M. Bigras.
Oui, bonjour.
Moi, je suis camionneur. J'ai jamais arrêté de travailler. Et puis, c'est sûr qu'il faut que je fasse attention. J'ai pas les moyens de faire mon travail. Mais ce que je trouve difficile, c'est de faire confiance à tout le monde que je fréquente. J'en fréquente pas tant que ça, mais il faut que je me dise que ce monde-là font attention autant que moi, puis que le monde qui connaît d'autres mondes fait attention aussi. Fait que on se ramasse dans une espèce de bulle où il faut faire confiance à tout le monde, puis on se demande si dans le lot, il n'y a pas un complotiste qui se dit c'est de la merde, puis c'est pas grave le masque, puis on sait pas si... L'ami de mon ami a fréquenté quelqu'un qui est infecté.
Oui.
Moi, je trouve ça difficile de faire confiance à tout le monde. Puis j'essaye.
Sylvain, je te comprends.
Je fais du mieux que je peux.
Sylvain, je te comprends. On a une autre chose qu'on va devoir gérer en société, c'est que on deviendra pas non plus une société qui va dénoncer son voisin à tout bout de champ, puis qu'on va le brûler aux sorcières ou on va nommer son nom ses médias sociaux. Lui, il s'est pas protégé. Ça va donner une guerre civile, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, je crois... Parce que le docteur Machouf peut encore me détromper si je suis dans le champ, mais je veux dire, même si Sylvain t'a rencontré des gens, mettons, en débarquant de la marchandise ou en embarquant de la marchandise ou dans le bureau en signant des papiers, etc., qui ont peut-être pas pris toutes leurs précautions, mais si toi, t'as gardé ton masque puis tu te laves les mains régulièrement, tu mets du Purel quand t'as pas de lavabo à côté de toi, il me semble que t'es déjà beaucoup plus safe. Même s'il y a des gens alentour. Puis là, je vais reprendre un argument de complotiste, c'est qu'il y a eu une horreur dans les CHSLD au début, mais là, il y en a moins. Donc, faut peut-être pas avoir peur pour notre vie au point de risquer. Il y en a qui sont battus. Il y en a des pro-masques, des anti-masques. On a vu ça sur les médias sociaux, puis on a vu passer aux nouvelles. Ils se battent à coups de poing. Bien, je m'excuse. Quand tu te bats à coups de poing, t'es collé l'un sur l'autre. Tu respires l'air de l'autre. Fait que c'est pas malin pour personne. Fait que je pense qu'il va falloir réussir à se désangoisser un peu, ça, Sylvain, si je peux me permettre, en autant que toi, tu prennes tes précautions. Puis je pense que de cette façon-là, t'es peut-être plus safe que tu penses. Qu'est-ce que tu en penses, Dr Machouf?
Je suis d'accord. Et les personnes qui pensent qu'il y a un complot en arrière de ça, on a quand même eu 60 000 personnes qui ont été infectées au Québec. On a eu quoi, proche de pas loin de 6 000 personnes qui en sont décédées. C'est la réalité. Et même aux États-Unis, il y a M. Trump qui pendant longtemps pensait que c'était un complot. Là, il a tellement agencer ses politiques, en fait, ses politiques de santé en fonction de sa pensée complotiste, qu'on voit maintenant la catastrophe qu'ils vivent actuellement aux États-Unis avec 5 millions de personnes infectées. Et là, ils se sont rendus compte que c'est assez niaisé. Puis, ils vont prendre les mesures
nécessaires
pour éviter ça. Ils partent de très loin. Mais là, même maintenant, M. Trump, il porte le masque. Et il en fait la promotion. Ils ont réalisé ça trop tard, mais je veux dire, eux, étant donné qu'ils étaient aux prises avec les conséquences de ces dires ou ces façons de penser complotistes, parce que c'était lui qui devait mettre les politiques en place, oui. au bout du compte, là, ils se sont fait ramasser par le virus.
L'épidémie a eu plusieurs phases. Est-ce qu'on est rendu, selon vous, dans une phase où, à Montréal, on a été tellement infectés, je pense que les gens font un peu plus attention. Est-ce que vous pensez que moi, dans ma campagne, admettons dans la Naudière, puis je suis quand même en contact avec des gens, là, je vais faire mes cours, je vais faire mon marché, des fois, il faut que je passe à l'hôpital, checker mes épaules un petit peu, bon, c'est pas grave, mais si je rencontre des gens, est-ce que vous croyez que c'est plus en dehors de la ville où maintenant on se fait avoir? Parce qu'on n'a pas dû lever notre garde autant que les gens de Montréal.
C'est probable. Docteur Liu, Joanne Liu, dans une oui. des entrevues, je l'ai entendue, elle disait que c'est tellement vrai ce qu'elle a dit, c'est que pour la deuxième vague, on va se faire surprendre par là où on ne le pensait pas. c'est pas dans les CHSLD qu'on va voir la deuxième vague, parce que dans les CHSLD, maintenant, ils savent très bien comment protéger et comment surveiller l'infection.
Ça aussi, c'est un peu lapsus. Vous ailleurs. Avez dit la deuxième guerre. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Docteur Machaud, je vous remercie infiniment. Ça a été un plaisir. J'espère que je vais revenir à la radio à un moment donné pour avoir le plaisir de vous parler encore. Mais sinon, ben, alors, évidemment, on parle d'épidémie, nous autres, c'est comme ça.
Ouais.
Mais merci beaucoup. Je vous souhaite une superbe journée et puis bonne chance dans votre travail.
Tout le plaisir était pour moi, Dan, et bonne suite.
Merci beaucoup. C'était le docteur Nima Machouf, qui est épidémiologiste. Je me suis encore planté. Hey, c'est le temps, je prends des vacances. Elle travaille à la clinique du quartier latin. Nous autres, on prend une petite pause et on revient avec Jean-Luc Mongrain.